OK, on continue notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. On en est au livre de Sophonie, dans la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, on va examiner trois autres aspects du livre de Sophonie. Premier aspect, son contenu. Deuxième aspect, ses leçons morales. Et troisième aspect, son message théologique. Alors, le premier aspect, le contenu du livre de Sophonie. On retrouve dans le livre de Sophonie le même canevas en trois points que ceux d'Isaïe et d'Ézéchiel. D'abord, des prophéties liées au contexte historique immédiat de Juda, puis des prophéties du jugement contre les nations païennes, et enfin, des prophéties relatives à la restauration et à la bénédiction finale d'Israël. Le ton du livre est grave, rempli d'expressions imagées de la juste colère de Dieu. Verset 18 du chapitre 1. « Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. » Verset 8 du chapitre 3. De sévères condamnations et de graves menaces s'accumulent jusqu'à la dernière section qui voit le ton changer brusquement. Et le livre s'achève sur l'un des plus beaux chants d'amour de l'Ancien Testament. Dans la section 1-1 à 2-3, c'est vraiment le thème de « Le jour de l'Éternel est proche ». Les Israélites ont une fois de plus failli à leurs obligations vis-à-vis de l'Alliance. Ils ont été infidèles au Dieu vivant. Sa patience est épuisée. Il exprime sa grande colère contre l'idolâtrie de Juda. L'expression « le jour de l'Éternel » revient 7 fois dans cette première partie. Sophonie sait vraisemblablement que le prophète Amos en avait déjà abondamment fait usage. La première partie s'achève sur un appel à la repentance. Dieu démontre admirablement sa compassion en révélant d'abord ses jugements sévères avant d'appeler le peuple à revenir à lui pour échapper à sa colère. Deuxième section, c'est chapitre 2, versets 4 à 15. Donc, ce sont des prophéties contre les nations environnantes. Bien que prophète en Juda, Sophonie n'en délivre pas moins des messages pour les nations païennes voisines. Dieu les convainc de leurs péchés et les déclare inexcusables. Les peuples non-juifs doivent aussi répondre de leurs actes devant Dieu. Jérémie et Nahum, les autres prophètes de son temps, proclamaient le même message. Jérémie 10:10, « Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. » Et dans Nahum, chapitre 1, versets 2 et 3, « L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur, l'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis, l'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne le laisse pas impuni. » L'avenir des nations est entre les mains de l'Éternel, qui en dispose comme il l'estime le mieux. Sophonie s'adresse d'abord à Gaza et à la Philistie. Il prononce un jugement contre Moab et Ammon à cause de leur hostilité envers Israël. L'Éthiopie n'échappe pas au jugement. Le prophète prédit enfin, en langage très imagé, la destruction de Ninive. Ceci s'accomplit lors de la destruction complète de la ville environ une 20aine d'années plus tard, en 612 avant Jésus-Christ, par les forces conjointes des Mèdes et des Babyloniens. Troisième section, chapitre 3, versets 1 à 8, le jugement contre la ville de Jérusalem. L'Éternel est particulièrement attristé devant le niveau spirituel et moral de la capitale. Les habitants de Jérusalem persistent dans leur aveuglement spirituel et dans leur méchanceté, malgré les avertissements répétés que le Seigneur leur adresse par la bouche de ses prophètes. Ceux qui auraient dû être des guides en matière de justice, les chefs, les juges, les prophètes et les sacrificateurs, sont en réalité des guides sur la voie de l'iniquité. Le peuple de Juda a été témoin de la chute du royaume du Nord, mais il n'a pas su tirer les leçons de l'histoire. On a la section, chapitre 3, versets 9 à 13, le jugement universel, mais avec un, le Seigneur se réserve un reste fidèle qui est préservé. Sophonie annonce un jugement universel, au cours duquel seul un petit nombre de personnes sera sauvé. Il s'agira des restes d'Israël qui ne commettront point d'iniquité, ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Cinquième section, chapitre 3, versets 14 à 20, le rétablissement et la gloire d'Israël. L'Éternel est au milieu d'elle pour le jugement et au milieu d'elle pour le rétablissement de la nation. Quand la coupe de la colère est vidée, il y a de la place pour l'amour. Sophonie se réjouit d'avance à la pensée de l'inauguration du royaume de Dieu. Il brosse un remarquable tableau d'un Seigneur rempli de tendresse et d'amour qui trouvera son bonheur dans son peuple. Verset 17, chapitre 3. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Le peuple de Dieu sera restauré et sa renommée s'étendra sur toute la terre. Deuxième point qu'on voulait regarder, c'est les leçons morales du livre de Sophonie. Donc, parmi les leçons morales, le chant à l'Éternel. L'Éternel déclara à Job, « Quand je fondais la terre, les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. » Job, chapitre 38, versets 4 et verset 7. Mais il n'est pas précisé que Dieu lui-même chanta. Quand l'Église de Jésus-Christ, qui constitue le véritable Israël de Dieu, composé des croyants d'origine juive et d'origine païenne, sera complète et glorifiée, Dieu chantera. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Les mots « Il fera de toi sa plus grande joie » évoquent le bonheur que Dieu éprouve dans son cœur, alors que l'expression « Il aura pour toi des transports d'allégresse » a davantage trait à la manifestation extérieure de ce bonheur. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ésaïe, chapitre 62, verset 5. Dieu aime intensément son peuple. L'apôtre Paul exprime cette vérité autrement en déclarant que Jésus-Christ nourrit et prend soin de son Église dans Éphésiens, chapitre 5, verset 29. Donc, une deuxième leçon morale du livre, c'est la présence de l'Éternel. Les chefs, les juges, les prophètes et les sacrificateurs de Jérusalem ont failli à leur tâche. C'est pourquoi l'Éternel est au milieu de la ville pour corriger cette mauvaise situation. Quand Dieu est au milieu, il prend la place de ses responsables et accomplit tour à tour chacune de leurs fonctions. L'Éternel vient d'abord comme juge pour convaincre de péché et mettre ses jugements en lumière. Puis, En tant que prophète, il enseigne au peuple à invoquer son nom avec des lèvres pures et à paraître humble en sa présence. Ensuite, en tant que roi, il règne avec une puissance et une gloire souveraine au milieu de toi. Et comme sacrificateur, il rassemble son peuple, ôte les obstacles et le fait entrer dans la communion la plus étroite possible avec lui-même. Le jour vient où Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et où une voix criera : voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse, chapitre 21, versets 3 et 4. Autre leçon morale, une sainte jalousie. De même que Dieu éprouve une jalousie sainte et pure, le chrétien devrait également connaître un sentiment comparable. Il existe deux sortes de jalousie. L'une qui procède de l'amour de nous-mêmes, qui est mauvaise et corrompue. L'autre dont nous sommes transportés pour l'amour de notre Dieu. Car plusieurs sont jaloux pour eux-mêmes et non pas pour Dieu. Or, il n'y a pas d'autre sainte et juste jalousie, sinon celle qui regarde Dieu, étant à faire qu'on ôte pas à Dieu l'honneur qui lui appartient. Lorsque la jalousie de Dieu est comprise comme son exigence à une loyauté exclusive, son peuple la partage en étant intensément préoccupé de son honneur et de sa gloire. L'apôtre est animé de cet esprit quand il écrit aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 et 3, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Il éprouve un désir intense de les voir garder leur loyauté exclusive à l'égard de Christ. Le peuple de Dieu devrait être très soucié du nom, de l'honneur et de la gloire du seul vrai Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et le nôtre, par sa grâce. Alors, une autre leçon morale, c'est ce que l'Éternel fera pour les siens. Le livre de Sophonie s'achève sur 9 merveilleux verbes au futur. Ils expriment ce que l'Éternel fera pour les siens. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous les oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Chapitre 3, versets 18 à 20. Les 10 tribus du royaume d'Israël ont depuis longtemps été amenées captives en Assyrie. Les 2 tribus du royaume de Juda vont bientôt connaître le même sort aux mains des Babyloniens. Tout en proclamant ses jugements sur une nation têtue et rebelle, l'Éternel prodigue un encouragement au reste fidèle en lui promettant le rétablissement. Lui-même le fera revenir dans son pays. Mais en filigrane se dessine la merveilleuse promesse faite à Abraham dans Genèse 12, verset 3. Le prophète Sophonie annonce d'avance qu'il viendra un temps où les nations serviront l'Éternel. Parallèlement à l'annonce du jugement qui frappera toute la terre, il y a l'annonce de la conversion des nations païennes au Dieu vivant. Verset 9 du chapitre 3. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Par Israël, et surtout par le plus grand de ses fils, le salut parviendra aux nations païennes. La promesse d'un nouvel Israël composé de juifs et de non-juifs, on peut trouver ça dans Galates chapitre 3, versets 8 et 9, et versets 26 et 29, est en voie d'accomplissement. Troisième point, le message théologique de Sophonie. Les thèmes du jugement, de la grâce et de la miséricorde prédominent. Le jugement divin est d'abord dépeint au moyen de l'image du jour du Seigneur. La grâce divine l'est par le motif du reste et de la restauration. Le jour du Seigneur est un thème puissant chez les prophètes. Sophonie paraît être conscient de l'usage antérieur, le concept analogue chez Amos et Ésaïe. Ce jour est le jour où Dieu rétablira son honneur et viendra juger et détruire le péché, que ce soit au moyen des nations païennes ou en Israël. La création se dissout, l'univers est ébranlé et retourne aux ténèbres du chaos primitif. L'univers retourne à son état inanimé et informe. Yahvé vient en guerrier en ce grand jour de guerre sainte contre le mal. Sa présence est annoncée par une théophanie flamboyante. Pour Sophonie, ce grand jour relevait d'une attente historique imminente. Cependant, cet acte historique d'intrusion divine annonçait aussi un jugement eschatologique dans lequel le péché serait aboli de la terre. Deuxième idée, parallèlement à cette effrayante anticipation de la fureur divine, vient le thème compensatoire de la fidélité de Dieu et de sa miséricorde à l'égard du reste. Le motif du reste apparaît dans de nombreux livres de la Bible. Lorsqu'un groupe subit une catastrophe provoquée par le châtiment du péché, ceux qui survivent et qui deviennent le noyau de la continuation de l'espèce humaine ou du peuple de Dieu sont appelés le reste. L'existence future du peuple de Dieu se concentre sur ce reste purifié et saint qui hérite à nouveau des promesses de Dieu. Pour le prophète, il est envisageable de survivre au jour du Seigneur. La fureur divine que Sophonie anticipe purifiera la nation de sorte qu'un reste sans péché en sortira. Ce reste sera constitué des exilés, sera rétabli dans le pays et bénéficiera de la faveur divine. Le but qu'avait Dieu en choisissant Israël ne sera pas contrecarré par l'éruption imminente du jugement, mais s'accomplira en un reste élu. Le Dieu Tout-Puissant n'admettra pas l'orgueil, mais les doux et les humbles seront préservés. Troisième idée, le Dieu d'Israël est le Dieu universel. Il n'est pas seulement souverain sur une bande de terre de la côte orientale de la Méditerranée. Au contraire, il règne sur toutes les nations, leur demandant des comptes à la lumière de sa sainteté, en particulier à la lumière de la manière dont elles ont traité son peuple. Il a créé la terre et son jugement s'étend au monde entier. Lui qui règne sur l'univers a toujours eu des plans de grâce à l'égard de toutes les nations. Lui qui rassemble les nations pour entendre son jugement les rassemblera aussi pour recevoir sa grâce. Tous invoqueront le nom du Seigneur. Trois applications de cette très brève étude de Sophonie. Première application, implorons la grâce de Dieu et faisons tous nos efforts pour éviter de pratiquer les formes de péché qui ont amené de sévères jugements sur le peuple d'Israël. Le ritualisme, la léthargie spirituelle, donc l'indifférence et l'opposition aux lois de Dieu, l'idolâtrie, l'apostasie et l'immoralité. Deuxième application, Dieu juge souvent en utilisant des instruments. La guerre, la maladie, l'appauvrissement, les épreuves, etc. Ces instruments sont des manifestations de son amour. Il les utilise avec grande sagesse pour des fins glorieuses. Troisième et dernière application, Dieu accomplit infailliblement ses promesses et son alliance avec son peuple. Il est fidèle malgré nos manquements, malgré nos chutes et malgré nos défaillances. Que l'Éternel soit adoré, béni et exalté éternellement. Amen. Amen.